Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Julien Jean-Pierre. Sorti du restaurant, Charles lui demande « Tu veux passer l'après-midi chez moi pour discuter ?» Patrick refuse. Charles lui donne 100 francs. « Non, mais si, tu iras au cinéma avec. Merci, au revoir. » Et Patrick s'en va, les mains dans les poches. Charles le voit s'éloigner. Pauvre gosse, pourquoi ne veut-il pas dire qu'il a besoin d'aide? Il m'a tout de même téléphoné. Qui sait, la prochaine fois, il n'aura plus confiance, plus confiance. Charles et Nathalie se voient souvent. Ils font des courses ensemble, vont au restaurant, au concert. Cela est un peu difficile pour Charles, car la vie est chère. Mais Nathalie est si bonne. Les affaires de M. de Hautebord se dégradent. Cela inquiète sa femme qui fait une dépression. Il ne veut plus sortir de son lit et n'a goût à rien. Il ne supporte plus de vieillir aussi. Charles va la voir deux fois par semaine. La chambre est dans la pénombre. Charles s'approche du lit.
Ah, c'est toi, mon petit.
Oui, mère. Malgré la pénombre, il voit qu'elle a maigri.
Pourquoi restez-vous dans le noir, mère? Parce que le jour me fatigue. Et que je ne veux pas que l'on voie que je suis vieille maintenant.
Charles se met à genoux près du lit. Il lui prend les deux mains.
Mais non, mère, vous n'êtes pas vieille. Mais si. Tu te souviens des soirées que nous faisions ensemble?
Oui, mère.
Maintenant c'est fini. Ton père est ruiné.
Mais non, mère. Père n'est pas ruiné.
Si, il est ruiné, ruiné.
Elle se soulève.
Ruiné, tu m'entends?
Mais,
tais-toi, je sais ce que je dis.
Elle est tellement excitée que tout son corps tremble.
Je sais ce que je dis, je sais ce que je dis, dit-elle en serrant les poings.
Mère,
non, va-t'en.
Charles quitte la pièce.
Les semaines passent. L'Europe, ça ne va pas du tout. La France est envahie par les pays européens et leurs produits. Le français n'est plus la langue officielle, c'est l'allemand. Un jour, Charles reçoit un appel téléphonique. C'est Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Charles.
Charles, ça va?
Charles.
Oui, Charles.
Ça ne va pas?
Si. Charles, qu'y a-t-il?
Non, rien.
Charles. Il l'a raccroché. Charles se sent gêné. Il sent que Patrick n'est pas bien. Il aurait dû lui dire de venir manger chez lui ou au restaurant. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Pourquoi n'a-t-il pas osé parler? Pourquoi moi, lui ai-je pas demandé où il était? Charles se lève et fait les 100 pas. Les 100 pas dans la pièce. Bon. Pourquoi? Mais que lui est-il arrivé? Pauvre gosse. Peut-être me téléphonera-t-il? Charles attend toute la nuit, mais Patrick ne téléphone pas. On sonne à la porte de chez Charles. Il va ouvrir. C'est un commissaire. Ou plutôt un agent de police qui lui dit qu'il est convoqué au commissariat.
À 14h, il est au commissariat. Charles est devant le commissaire, un petit gros à moustache.
Vous êtes Charles de Hautebord, domicilié en 42 rue Barrier dans le 6e.
Oui, monsieur.
Connaissez-vous un Patrick Goodven?
Je connais un dénommé Patrick, mais je ne connaissais pas son nom de famille.
Le commissaire lui montre une vieille photo d'identité en couleur.
C'est Patrick.
Oui.
Asseyez-vous, monsieur.
Charles s'assoit en face du bureau. Le commissaire regarde droit dans les yeux Charles.
Patrick Goodven a été trouvé mort dans une allée. Il s'est ouvert les veines il y a de cela 24 heures.
Charles est tout blanc. Ses oreilles bourdonnent. Et il a envie de pleurer.
Mon Dieu.
Commissaire gêné baisse la tête, tourne notre crayon entre ses doigts.
Nous avons convoqué parce qu'il y avait dans ses poches un papier avec votre nom et vos coordonnées. Vous connaissiez pas son nom? Et comment se fait-il qu'il avait vos coordonnées dans sa poche?
Charles avala sur sa livre, regarda autour de lui. La pièce était sombre, les murs sont peints en jaune.
M'a raconté par hasard, je l'ai rencontré par hasard et nous avons sympathisé.
Vous avez sympathisé et vous ne connaissiez même pas son nom?
Oui, c'est comme ça. Il ne me l'avait pas dit. Et par discrétion, je ne lui ai pas demandé.
Quels étaient vos rapports?
Amicaux, simplement.
Savez-vous qu'il traînait dans les rues depuis quelque temps? Son patron l'avait mis à la porte. Il était sans emploi, sans argent, ni logement. Sa famille n'était pas au courant de ses déboires. Ils avaient quitté Fanché. Est-ce que vous saviez tout ça?
Non, mais je me doutais un petit peu de quelque chose de ce genre.
N'ai pas cherché à l'aider.
Il ne parlait pas et il ne voulait pas. Je ne voulais pas le forcer.
Charles éclata en sanglots. Il m'a téléphoné.
Certainement avant de... Je n'ai pas compris. J'aurais dû le forcer à venir me voir au café.
Charles déprimé raconte l'histoire de Patrick à Nathalie. Elle a peur que ça recommence comme avec Jean-Denis. Le chômage augmente. Les lois sociales sont de plus en plus supprimées. Révolte des ouvriers et des étudiants en France et dans les États du Sud.
Thank you.
Madame de haute bord, seule, dans sa chambre, dans son lit, il est 23 heures.
Ce n'est pas une vie que de rester dans ce lit. Mais j'ai plus de force. Je ne veux rien faire. Je suis lasse, fatiguée, tellement vieille aussi. Tous ces cris, ces hurlements dans les rues, les affaires de mon mari qui vont mal. Tout ça m'épuise. Je suis fatiguée, fatiguée, minée. J'aimerais en finir. Je suis si lasse. Si lasse. Bientôt, encore un nouveau jour. Pourquoi faire? Rester allongé? Elle prend de sa table de nuit un album de photographies qu'elle tient sur ses genoux. Ce sont des photos, vieilles photos de famille. Elle se rappelle le temps où elle était jeune et en jouait. Elle soupire. À quoi bon? Elle met l'album sur la table. Elle ouvre le tiroir de la table de nuit. En sort une petite glace. Elle se dévisage. En se penchant, elle se penche vers la lampe de chevet. Ses traits sont maigres. Ses cheveux sont en désordre et grisonnants. Que tu es vieille, moche. À quoi cela sert-il de vivre lorsque l'on est comme ça?
Elle remet la glace dans le tiroir, reste un moment pensive et regarde autour d'elle. La pièce est juste éclairée par la lampe de chevet. Elle essaie de se lever, mais est trop faible. Et toute la nuit, à regarder les photos, elle sonne pour la bonne. On frappe à la porte.
Entrez.
La bonne entre.
Préparez-moi un petit déjeuner complet. Madame ne veut pas autre chose? Non, c'est la seule chose que je pourrais manger.
Bien, madame. Demi-heure plus tard.
Entrez.
La bonne vient prendre le plateau. Madame de Haute-Bord se sent mieux. le ventre gonflé, mais mieux. Elle se lève. Et va à la salle de bain pour prendre sa douche. Puis, elle se maquille et s'habille. Elle met son manteau de fourrure blanche, talon haut. Noir, vernis noir, son sac en crocodile, noir. Avant de sortir de sa chambre, elle le regarde. Son visage est plein de mélancolie. Puis, elle sort. Dehors, la fraîcheur la surprend et le bruit de la rue lui fait peur. Elle marche d'un pas hésitant et penchée un peu. Ses bras essayent de faire des gestes pour rester en équilibre. Puis sa démarche prend un peu plus d'assurance. Mais elle marche lentement, sans ne rien voir, elle est dans ses pensées.
Ne vais-je pas faire une bêtise? Que va devenir mon mari? Est-ce que je n'agis pas en égoïste?
Les rues sont presque vides. Les gens restent chez eux à cause des émeutes.
Elle va sonner, enfin, à la porte de Charles. Puisée et tremblante. Charles lui ouvre, ni surpris.
Maman, entre.
la fait entrer, ferme la porte. Malgré son maquillage, elle est toute pâle.
Tiens, viens t'asseoir, maman.
Il l'amène s'asseoir. S'assoit sur une chaise, Charles va s'asseoir sur le rebord du lit. Il lui prend les mains. Elles sont glacées.
Je suis très heureux que tu sois là. Tu veux quelque chose?
Non, merci. Je suis simplement venue te dire bonjour.
Elle l'embrasse. Elle regarde autour d'elle. Il la regarde. Elle baisse la tête.
Je suis vieille.
Elle se lève.
Je dois partir.
Déjà?
Oui.
Il se lève. Il la maintient jusqu'à la porte.
Je t'appelle un taxi.
Non. De marcher, cela me fera du bien.
Tu es sûr?
Oui.
Elle l'embrasse sur la joue. Ouvre la porte.
Au revoir, maman.
Elle ne répond pas. Assise, les jambes croisées, fumant une cigarette sur une borne qui se trouve près de la berge du Rhône. La ville dort, on entend le bruit de l'eau, sur l'autre berge les lumières de la ville. Son sac est à terre. Matin, on sonne chez Charles. Si son père est un tueur des faits, Charles le fait entrer.
Bonjour, fils. Tu n'as pas vu ta mère?
Si, père.
Où est-elle?
Elle est partie. C'était hier au soir.
Le père entre.
Tu sais où elle est allée?
Non, mais que se passe-t-il?
Ta mère a disparu depuis hier au soir. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Tous ces temps, elle n'était pas bien. La peur de vieillir. Et puis mes affaires ne vont pas très bien. Déprimée comme elle est, je crains le pire.
Il s'assoit sur une chaise. Le téléphone sonne. Charles va répondre, décroche.
Allô? Oui?
Bien. C'est pour son père.
Papa, c'est pour toi.
Le père se lève.
Oui? Bien. J'arrive tout de suite. Merci. On a retrouvé ta mère. On m'attend au commissariat du 6e.
Je vais avec toi, père.
Oui, je crains le pire.
Charles prend sa gabardine.
et ils sortent.
Au commissariat, on leur dit qu'on a retrouvé le corps de Laure, d'Hélène, noyée dans le Rhône. Cette nouvelle les effondre. L'enterrement se fait tout de suite après l'autopsie. Charles erre dans les rues. La mort de sa mère l'a beaucoup affecté. Il se souvient du temps où il était heureux, où ils étaient heureux ensemble, de la vie insouciante qu'il menait. Il revient à l'esprit l'image de sa mère. Mais pas celle de ces derniers temps qui pour lui n'était déjà plus vraiment sa mère. Mais une personne malade, non, il la revoyait grande, belle, toujours en effervescence. Pauvre maman, pourquoi as-tu tant changé? Charles est couché dans son lit, il est 17h. Il n'est pas sorti de son lit toute la journée. Il n'avait pas envie. À quoi bon sortir? Il est au chômage. La France est à feu et à sang. Et puis, il sent que cette année pour lui n'est pas bonne. La mort de sa mère, de Patrick, le chômage. Non, cette année n'est pas bonne. Il vaut mieux ne rien faire. On sonne à la porte. Il n'a pas envie d'aller ouvrir. On sonne une deuxième fois. Il se lève. Et ouvre. C'est Nathalie. Elle le voit encore en pyjama. Tu es malade? Non, ça va. Je t'en prie, entre. Elle entre, ferme la porte. Ils s'embrassent sur la joue. Tu as l'air fragile, fatigué. Non, c'est rien, peu de cafard.
Tiens, viens t'asseoir sur la chaise. S'assoit sur la chaise. Oui, va s'asseoir sur le rebord du lit. Je pensais à mère, à tout ce qui m'est arrivé. C'est pas très gai. Mère morte, Patrick morte. Lui aussi. Et puis ce chômage. Elle lui prend les mains. Allons, Charles, ne te laisse pas aller. Secoue-toi. Ton père a besoin de toi. Père, pauvre père, que devient-il? Va lui rendre visite. Tu verras comme il a changé. Monsieur de Hautebord est assis à son bureau. Il ne fait rien. Il reste dans ses pensées. La pièce est dans la pénombre. On frappe à la porte. Elle s'ouvre. C'est Charles.
Père, vous êtes là?
Oui,
dit-il en éclairant la lampe de son bureau. Charles s'approche, l'embrasse.
Bonjour, père.
Bonjour, Charles.
Que fais-tu dans le noir, père?
Rien. Le noir me permet de mieux voir les couleurs du passé. La vie présente ne m'intéresse plus. Tu sais, malgré les apparences, j'ai beaucoup aimé ta mère. Au début de ton mariage, j'étais tellement émerveillé par elle que je n'osais pas la regarder. C'était une femme douce, et malgré tous ses airs évaporés, c'était une femme très intelligente. Tu te souviens, Charles, comme elle nous parlait des écrits de Platon et aussi de Mallarmé?
Oui, père. Moi aussi, je pense beaucoup à elle. Venez, père. Allons nous asseoir au salon. Il fait plus chaud.
Il se lève et sort du bureau pour aller au salon.
Ils vont s'asseoir près de la cheminée.
Père, ne vous laissez pas aller.
Tout s'effondre autour de moi. Les êtres chers disparus. La guerre civile. Le chômage. Je suis presque ruiné. Tout ça à cause d'un gouvernement stupide qui s'est laissé entraîner dans cette aventure européenne. Je ne reconnais plus rien. J'ai de plus en plus envie de solitude, de calme. Je veux me retirer. J'aimerais pouvoir aller chez les Chartreux. Le supérieur est un de mes amis. J'en ai assez de ce monde. Lutter pour rien. Il n'y a que la contemplation qui nous mène à l'absolu.
Mes pères,
le père lui met la main sur son bras.
Écoute, mon petit, ils vont me faire une grande joie. Je veux, avant de quitter ce monde, que tu te maries avec Nathalie. C'est une bonne et douce fille. Elle t'a prouvé son amour et sa fidélité plus d'une fois. Marie-toi avec elle. Je suis sûr qu'elle te rendra heureux. Et toi, t'es un garçon malgré tes lubies. Tu la rendras aussi heureux. Je voudrais que ce mariage se fasse. Je vendrai mes biens. Cela te fera un petit magot Et en plus, je te laisse la maison de disques que tu dirigeras. Quoi qu'il arrive, les gens ont toujours besoin de musique et de chansons, dans les guerres comme dans les révolutions. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit?
Je te remercie, père. J'en vais en parler à Nathalie.
Charles a donné rendez-vous chez lui à Nathalie.
On entend le bruit des manifestants. Ils sont tous deux assis.
J'ai vu mon père. Il a beaucoup changé. Et tiens à se retirer du monde,
d'aller vivre chez les Chartreux. Avant, il aimerait, c'est que nous lui fassions une grande joie, que nous marions. Nathalie est très émue.
Est-ce que c'est ton père qui désire ce mariage?
Charles se lève, se met à genoux.
Devant elle, il prend les mains.
Non, Nathalie, moi aussi je désire que tu deviennes ma femme.
Je t'aime.
Il a les larmes aux yeux.
Tu veux bien?
Oui, Charles.
Tu sais bien.
Il l'embrasse sur la joue. Pose la tête sur ses genoux. Dehors, on entend toujours le bruit des manifestants.
Deux mois après les fiançailles, pour faire plaisir au père, l'on fait un grand mariage.
Jesus Christus, custodit vos Jesus Christus, Illuminat vos Spiritus Sanctis, ostenda Dominus patiem suam vobis, et misereatur vestri, et conventa Dominus vultum sum super vos, et dat vobis facem omnibus divus vitae vestre, impleratem von omni benedictum et celesti, in remissionem omnium peccatorum vestrum, un habitatis vitam aeternam, in saecula saeculorum.
Amen.
Iungo vobis in matrimen.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.